carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Fra Angelico et les maîtres de la lumière. Fra Angelico, un nom qui sonne comme la musique des anges. Une fois de plus, le musée Jacquemart-André nous enchante avec une exposition exceptionnelle, Fra Angelico, une figure majeure du Quattrocento. Et c'est pour nous, au studio de Canal Académie, le plaisir renouvelé d'accueillir Nicolas Sainte-Fargarneau, conservateur du musée Jacquemart-André. Nicolas Sainte-Fargarneau, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir, entre deux avions, trouvé le temps d'accepter notre invitation. Vous êtes tout à la fois conservateur du musée et commissaire associé de cette exposition. C'est, je crois, une première en France qu'un hommage d'une telle importance est consacré à Fra Angelico. Il rassemble des œuvres dispersées en Italie, à Florence notamment, au Vatican, à Pise, Turin, Parme, Bergame, mais aussi à travers toute l'Europe, au Musée des Beaux-Arts de Budapest et de Nice par exemple, sans oublier le Louvre. Alors, pouvez-vous nous confier comment vous avez pu réunir toutes ces œuvres, une vingtaine d'œuvres du maître de Fiesole et autant de panneaux réalisés par les peintres prestigieux qui l'ont inspiré ou alors qu'il a lui-même inspiré? On peut nommer Lorenzo Monaco, Uccello ou Filippo Lippi, pour n'en citer que quelques-uns. Nicolas Sainte-Fargarneau?
Écoutez, ça a été une entreprise ardue, mais qui ne nous a pas fait peur. Donc c'est avec, je dirais, beaucoup d'ardeur que nous avons lancé cette initiative. Et tout de suite, je dois insister sur le fait que nous avons noué une véritable collaboration avec le pôle muséal de Florence et avec ses dirigeants, c'est-à-dire d'abord Cristina Cidini, qui est surintendante du pôle muséal de Florence, et puis Giovanna Damiani, qui a été le commissaire général de cette exposition. À l'époque, elle travaillait aux côtés de Madame Cidini, et maintenant, elle est devenue à son tour surintendante de Parme, puis maintenant de Venise. Alors, c'est grâce à cette collaboration et parce que nous avions leur appui que nous avons pu avoir, comment dire, une négociation directe et finalement fructueuse avec tous les musées italiens qui étaient dépositaires d'œuvres de Fra Angelico. Alors, bien sûr, dans cet ensemble étaient exclus les fresques, certains grands formats, polyptiques, rétables ou autres, puisque ces œuvres qui sont réalisées sur des assemblages de bois sont particulièrement fragiles et qu'on ne peut pas les bouger, c'est-à-dire tout simplement les transporter d'Italie en France et puis de les ramener chez eux. Donc on était contraints à sélectionner des œuvres de petit format, des œuvres en bon état, et nous disposions a priori d'un ensemble d'œuvres qui nous avaient été promises, qui était, je dirais, déjà éloquent. Ça, c'est le travail de la partie italienne, et vous comprenez que ce travail était essentiel. Et alors, au regard de ce qui était acquis, eh bien, je me suis moi-même occupé à essayer de compléter par d'autres prêts. Vous avez cité des musées français ou de l'Europe, en dehors et à l'exception de l'Italie, bien sûr, de façon à ce que l'image que nous allions offrir du peintre soit une image la plus complète possible. Donc, essayez de montrer des œuvres du début, du milieu et de la fin de la carrière. Essayez de montrer des œuvres représentatives des différentes tendances que Fra Angelico a manifestées au cours de sa carrière, ou des œuvres de qualité ou d'inspiration différentes. Et je pense en particulier soit à des œuvres typiquement religieuses, je veux dire par là, commandées par des institutions religieuses à destination d'institutions religieuses. Je pense en particulier aux couvents de Florence et de la Toscane, ou à l'inverse, des œuvres qui ont été commandées, et là nous sommes à la fin de la carrière de Fra Angelico, par des particuliers, des membres de familles puissantes, comme celle des Médicis.
Des Médicis,
et là,
sûr.
On voit bien que, si vous voulez, on a un basculement qui se produit. Non seulement les artistes proposent des solutions nouvelles du point de vue pictural, mais ils sont entendus par des mécènes qui changent en quelque sorte de statut, qui vont lancer ce grand mécénat italien de la Renaissance.
Oui, c'était un grand protégé de Cosme.
Voilà.
De Médicis, oui.
Il faut quand même dire que Frangelico a été le premier peintre qui peut être considéré comme le peintre des Médicis. Mmh. Alors, il y en a eu beaucoup d'autres après, évidemment. Mais c'est quand même très important de rappeler que malgré le fait qu'il soit un moine, malgré le fait qu'il soit essentiellement un peintre religieux, c'est le peintre favori de Côme l'Ancien, qui est en quelque sorte le fondateur de la dynastie Médicis.
Oui. Alors, donc, découvrir cette exposition, c'est véritablement un régal, car on fait un parcours de tout l'art italien du Trecento et du Quattrocento. La nouvelle science de la perspective révolutionne vraiment l'architecture, la sculpture et la peinture, qui est inspirée principalement, je crois, par l'architecture de l'Antiquité, n'est-ce pas ?
Voilà.
Et l'œuvre de Frangelico intègre subtilement ces nouveaux éléments. Frangelico est situé par les historiens de l'art entre ce qu'on appelle le gothique international et plus tard la première renaissance. Nicolas Sanfargano, merci de nous éclairer sur ces deux mouvements artistiques du XIVe et XVe siècle.
Oui, je voudrais d'abord souligner un fait que nos auditeurs ignorent trop souvent. Lorsqu'on évoque le gothique, pour nous autres Français, les choses vont de soi. Mais allez donc en Italie, la présence de l'art, comment dire, antique, romain, est si forte que le gothique est un petit peu oublié. Or, il ne faut pas oublier que dans sa phase terminale, c'est-à-dire la deuxième moitié du XIVe siècle et puis la première moitié du XVe siècle, le gothique se répand en quelque sorte sur toute la chrétienté, sur tout l'Occident. Et par conséquent, nous allons voir un certain nombre d'églises en Italie qui vont être construites sur les principes de l'art. Alors, pour être plus clair, je vais dire à dessein de l'art français. Et c'est pour ça qu'on parle de, bien entendu, de gothique international, parce que c'est une forme d'art qui marque l'influence de l'art français sur les autres pays. Et donc nous voyons ce style gothique international qui touche les artistes en Italie. Alors j'évoquais la construction d'églises, donc ce sont les architectes, mais c'est aussi le cas avec des sculpteurs, mais surtout, évidemment, ceux qui nous intéressent directement, des peintres. Alors, nous commençons l'exposition justement avec la présentation d'œuvres qui appartiennent à cette période, donc du tout début du XVe siècle, et qui montrent bien ce caractère d'œuvres relevant de l'esthétique gothique internationale. Et dans ce groupe d'œuvres, il y a Lorenzo Monaco, qui est le premier maître de Frangelico, mais aussi on trouve des œuvres de Frangelico. Donc c'est très intéressant de voir qu'il a été marqué par ce courant au début de sa carrière. Vous le soulignez à l'instant, en même temps que le gothique international connaît ses derniers feux, vous avez déjà l'émergence de courants autres, différents, nouveaux, qui sont effectivement ces premiers faits de la Renaissance. Et ceci apparaît aussi bien en sculpture, en peinture, qu'en architecture. Alors l'architecture est très importante puisque nous voyons au début du XVe siècle à Florence un certain nombre de grands chantiers. Alors ces chantiers, vous savez, se font suivant des procédures qui sont aussi passionnantes parce que ce sont des appels d'offres. On ouvre un concours et on dit aux meilleurs, montrez-nous ce que vous savez faire. Et alors, les meilleurs architectes viennent et proposent des solutions. Le problème qui se pose pour terminer la cathédrale de Florence, c'est d'installer une coupole. Alors, déjà, c'est une partie de l'architecture qui relève directement du modèle antique. Et les architectes ou les praticiens à cette époque ne savent pas comment poser et le tambour et la coupole sur la cathédrale au risque de tout faire tomber. Le seul qui relève le défi, c'est Brunelleschi. Alors Brunelleschi, c'est un des architectes majeurs de cette première Renaissance. Et dans ses exercices, il va expliquer comment on traite le problème de la mise en perspective sur une surface aveugle. C'est-à-dire, finalement, aussi bien sur le papier à dessin que sur le mur à fresque ou que sur le panneau peint. Et ça, c'est capital, puisque à partir de là, les peintres comme Masaccio à la chapelle Bancacci et d'autres vont s'en inspirer et vont représenter sur le mur à plat une troisième dimension en mettant bâtiments, paysages et personnages en perspective. Et je vous rappelle simplement des règles mathématiques qu'ils vont appliquer. On trace une ligne d'horizon, on désigne un point de fuite et à partir de celui-là, on trace des obliques à partir desquels on va installer les différents plans. Et c'est ainsi que vous avez une hauteur qui se rétrécit au fur et à mesure qu'on va vers le lointain et que vous avez une situation des différents éléments de la composition qui deviennent de plus en plus petits. Voilà comment Brunelleschi explique l'art de pratiquer cette perspective avec des règles qui sont des règles scientifiques dont se saisissent les peintres. Et évidemment, ce qui nous intéresse, c'est que Fra Angelico voit, entend parler de ces nouvelles méthodes et il va les mettre en œuvre. Donc, il va oublier les critères, les valeurs esthétiques qui avaient fondé le style gothique international et il va totalement s'inscrire dans cette voie nouvelle qui est celle d'une représentation plus réaliste, plus fidèle, quoique restant toujours intellectuelle, du monde qui nous entoure.
Oui, donc ce que vous expliquez, ça nous dit que donc, le style du gothique international fait partie des canons passés, disons,
voilà.
Et que à partir de cette nouvelle recherche de Brunelleschi, qui est tout un groupe d'artistes aussi des sculpteurs,
avec
je crois,
Donatello, oui, bien sûr,
qui ont rompu radicalement, donc
radicalement, c'est
un,
le terme,
un style et qui est devenu donc maintenant le début de la Renaissance.
Voilà,
c'est vraiment au début du XVe siècle que ça se passe.
Absolument. Pour vous donner d'autres exemples plus concrets encore, j'évoquais Lorenzo Monaco à l'instant. Lorenzo Monaco est un artiste qui traite sa peinture à plat. Donc les fonds sont bouchés, les fonds sont dorés, l'or est opaque. Et sur ces fonds dorés, il installe des personnages, des représentations religieuses le plus souvent. Et puis, donc, la chose qui l'intéresse, c'est sur cette peinture qui est une peinture, je le répète, à plat, de donner un sens de la ligne, de l'élégance formelle, le plus poussé possible, et aussi de maîtriser une polychromie la plus éclatante. Et donc, il va faire, comment dire, des accords de couleurs primaires, de rouge et de bleu, les lier à un jaune puissant, de façon à ce que la peinture, en quelque sorte, rayonne par elle-même. Mais au fond, cette technique, elle est à la fois extrêmement élaborée et en même temps, elle reflète une esthétique qui, je le répète, est l'esthétique de la période gothique. Et là, on passe dans un autre monde. Et donc, les artistes vont utiliser d'autres codes, d'autres méthodes. Et c'est très étonnant de voir que Fra Angelico, c'est le lien finalement entre ces deux excellences, celle de la peinture gothique et puis celle de la peinture de la première Renaissance.
Fra Angelico est aussi un maître de l'enluminure. Vous avez parlé tout à l'heure des fresques du couvent de Saint-Marc. Il est maître partout. Il est maître donc des fresques, des panneaux sur bois et des enluminures.
Alors, si vous le permettez, je vais évoquer une anecdote qui est tout à fait étonnante, puisque au couvent San Marco, qui est donc l'ancien couvent des Dominicains de Florence, installé à partir de la fin des années 1430 grâce à un mécénat de Côme l'Ancien, donc la communauté des Dominicains revient à Florence et s'installe dans ce couvent. Et pour que cette communauté de moines ait le plus grand prestige, on associe bien sûr aux salles habituelles ou aux espaces que nous sommes habitués à rencontrer dans ces lieux, le cloître, le réfectoire, la salle capitulaire. Il y a une bibliothèque, il y a des ateliers et c'est là que les moines vont recopier les textes, les discuter. Ils font de la glose et préparer, parce que je vous le rappelle, les dominicains sont des frères prêcheurs. Donc ce qu'il faut, c'est leur donner les armes intellectuelles de façon à ce que lorsqu'ils sortent du couvent, ils arrivent à convaincre ceux qui les écoutent. Eh bien, la bibliothèque du couvent San Marco est restée intacte jusqu'à ces dernières années. Et seulement lorsque les derniers frères religieux ont quitté les lieux, aujourd'hui le couvent San Marco est devenu un musée national, donc les frères ont laissé la bibliothèque. Et ce qui était peu connu jusqu'alors a été découvert par les savants, les historiens de l'art, et on s'est aperçu qu'il y avait notamment beaucoup d'ouvrages, des bréviaires, des missels, des antiphonaires. Les antiphonaires sont des ouvrages sur lesquels vous avez à la fois les portées musicales et les paroles que les moines chantent pendant les offices. Ce sont de grands ouvrages qu'on ouvre de façon à ce que ceux qui sont même un peu loin puissent lire clairement. Alors, suivre les portées et puis ne pas se tromper dans les paroles qu'ils doivent chanter. Eh bien, ces ouvrages-là sont illustrés. Alors, qui réalise les illustrations ? Eh bien, des moines peintres, et parmi eux, il y a Fra Angelico. C'est-à-dire qu'on a découvert un pan de son activité qui jusqu'alors était mal connu, si ce n'est inconnu. Et donc, nous présentons dans l'exposition un certain nombre de ces enluminures qui sont magnifiques et qui nous montrent comment, dans ce domaine également, vous le disiez, c'est un maître.
Oui, mais finalement, on ne sait pas grand-chose de sa vie, sinon, bien sûr, qu'il était moine dominicain, qu'il est né...
La date est discutée. Mais...
On ne sait pas exactement sa date de naissance non plus. Il se nommait Guido di Pietro.
C'est cela.
Il est devenu Fra Angelico quand il a intégré...
Giovanni da Fiesole. Oui. Et puis, je reviens sur ce que vous disiez. Sa famille est certainement originaire d'une région qui est dans la proximité de Florence et qui est appelée le Mugello. Et ses parents viennent à Florence. Alors, à quelle date, on ne le sait pas. À quelle date est-il né, pour répondre à votre question ? Vasari dit vers 1390. Les historiens pensent que la meilleure date aujourd'hui pour assurer la cohérence de sa carrière serait plutôt 1400. Mais l'affaire est encore en discussion. Autre élément important, nous savons que dès 1417, alors, il passe un contrat d'association avec un enlumineur connu. Donc, c'est très important parce qu'on s'est aperçu récemment qu'il commençait sa carrière de peintre avant de prononcer ses vœux. Donc, ça n'est qu'ensuite, un peu plus tard, qu'il entre dans les ordres et notamment qu'il devient moine dans le couvent dominicain de Fiesole, parce que les dominicains se sont retirés de Florence et sont à cette époque à Fiesole.
C'est sur les hauteurs de Florence, là où il fait meilleur.
Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il obtient l'autorisation de créer un atelier en dehors des murs du couvent. Je le précise parce que cela montre bien qu'il n'est pas cloîtré, comme certains ordres, à l'intérieur du couvent. Il peut sortir et bien sûr, c'est de cette façon-là qu'il enrichit sa culture visuelle, intellectuelle, en voyant tout ce qui se passe. Et à l'époque, nous sommes dans les années 1420, Florence est un vaste chantier. Avec la cathédrale, avec Or San Michel, avec l'hôpital des Innocents. Voilà, quantité de chantiers qui permettent aux architectes, aux sculpteurs, aux peintres de proposer des solutions nouvelles. Donc Fra Angelico voit tout ça et c'est ça qui, progressivement, va l'amener à changer de style.
Et donc, pourrait-on faire un portrait de sa personne ?
Écoutez, on n'a que des bribes à son propos. Je le disais, les documents sont très peu nombreux et les quelques écrivains ou historiens qui ont évoqué sa vie et son œuvre citent quelquefois des anecdotes. Par exemple, on dit que Fra Angelico, alors qu'il était en train de peindre une crucifixion, se mettait à pleurer. où on dit également qu'avant de peindre un sujet religieux, Fra Angelico rentrait dans une période de réflexion de façon à s'arrêter sur la meilleure interprétation possible et celle qui était d'ailleurs conforme aux Écritures. Voilà tout ce qui se passe. C'est peu de choses, avouons-le, mais grâce à Dieu, il nous reste l'œuvre.
Oui.
Et alors, il faut regarder très attentivement tous ces panneaux, toutes ces peintures, toutes ces fresques. Et là, on découvre des choses admirables, admirables.
Oui, oui, les fresques qui sont, d'ailleurs, je dois le souligner, on les voit quand même dans votre exposition parce que vous avez fait une magnifique vidéo.
Absolument.
Des fresques de toutes les cellules monacales du fameux couvent San Marco. C'est une telle splendeur qu'on reste béat comme il beato Fra Angelico. Écoutez, après cette première, disons, pénétration dans l'univers du beato, je vous suggère de faire une courte pause avant de plonger notre regard un peu plus en détail sur les principales œuvres de Fra Angelico. Nous sommes en compagnie de Nicolas Sainte-Fargarneau, conservateur du musée Jacques-Marandré, où a lieu cette superbe exposition « Fra Angelico et les maîtres de la lumière ». Nicolas Sainte-Fargarneau, justement, qui sont ces maîtres de la lumière ? Bien sûr, chaque œuvre rayonne d'une merveilleuse luminosité, mais n'est-ce pas là le propre de beaucoup d'artistes de jouer avec la lumière, de la mettre au cœur de leur recherche ? On peut penser par exemple aux primitifs italiens, un ou deux siècles avant Fra Angelico.
Oui et non. D'abord, je voudrais insister sur un élément essentiel de mon point de vue, à savoir que le maître de la lumière, c'est d'abord Fra Angelico. Et je voudrais vous en donner une démonstration. Prenez par exemple cette Vierge d'Humilité qui appartient aux collections de la Pinacothèque nationale de Parme. C'est, comme le thème l'indique, une Vierge qui est assise sur un coussin au sol. Voilà pourquoi elle est appelée Vierge d'Humilité, alors que dans la période précédente, les représentations de la Vierge étaient toujours des Vierges en majesté, et donc des Vierges assises sur un trône. À partir de 1348 et du fait de l'invention de Simone Martini, ce thème de la Vierge d'Humilité se développe et bien sûr, au début du XVe siècle, Fra Angelico va le reprendre à son compte. Alors que fait-il dans ce tableau de Parme ? Il nous montre cette jeune mère assise au sol et qui tient son enfant sur les genoux. Et chose étonnante, nous voyons sur, je le répète, ce panneau peint, donc nous sommes sur un plan, nous voyons se détacher son genou. Or, vous n'ignorez pas que traditionnellement, la Vierge est représentée avec une robe rouge et un manteau bleu. Le plus souvent, c'est un bleu de lapis-lazuli, extrêmement vibrant et qui donne beaucoup de prix à la représentation. Donc, le fait de peindre ce manteau bleu, souvent, se fait en aplat. Il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de profondeur. Et jusqu'alors, les artistes ont surtout joué sur les liserés qui bordaient ces manteaux et qui leur permettaient de jouer sur des jeux de courbes et de contre-courbes qui donnaient ce sens du rythme, quasi rythme musical, à leur composition. Et voilà que Fra Angelico abandonne ce système de représentation prend en quelque sorte un projecteur et concentre la lumière sur le genou. Que provoque le rayon lumineux sur cette forme? Eh bien, il va découper les zones d'ombre et de lumière. Et par conséquent, vous allez avoir un traitement du bleu plus clair d'un côté et plus sombre de l'autre. Et c'est ce que nous voyons très exactement sur le panneau. Pour la première fois, on voit ce système de représentation invraisemblable avec un genou, pardonnez-moi, qui part de l'avant. Et de cette façon-là, nous comprenons que le genou est dans un plan avancé et que derrière se tient le corps de la Vierge. Et ceci est possible grâce à l'utilisation de la lumière. Alors, il va généraliser ce principe et c'est de cette façon-là qu'il va modeler toutes ses compositions. Voilà pourquoi Frangelico est le maître de la lumière dans la génération des artistes qui l'entourent. Et ce système qu'il invente, il va de soi que tout un chacun va le repérer, va en comprendre le mérite et va vouloir, en définitive, l'imiter. À partir de là, ses collaborateurs, il a autour de lui des gens qui l'aident, Zanobi Strozzi, par exemple, Benozzo Gozzoli et d'autres, vont donc adopter ce système de représentation. Et puis, très rapidement, ce système de représentation, il va être repris par les autres. Et vous avez donc une génération de peintres toscans qui vont s'inspirer du modèle de Frangelico. Et ça, c'est capital parce qu'on voit bien que, de ce point de vue-là, ça n'est pas le peintre religieux qui est retenu, mais c'est le peintre tout court. C'est le modèle qu'il propose qui est adopté par tous ses confrères et qui donne au terme d'école toscane un sens important, profond, puisqu'en effet, il y a cette cohérence de cette génération d'artistes qui se fait par le traitement et l'utilisation de la lumière. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Alors voilà qui justifie ce titre, non seulement, je le répète, adapté à Frangelico, mais également à tous ceux qui le regardent et qui suivent son exemple.
Oui. Donc, vous affirmez, vous confirmez qu'il est un maître particulier de la lumière, plus que les primitifs italiens, par exemple.
Complètement. Alors, si vous voulez, on ne peut pas dire que les artistes n'aient pas mesuré l'intérêt de la lumière. Mais que font les artistes avant lui? Eh bien, voyez, par exemple, si on évoque un Saint-Joseph, imaginons que son manteau soit de couleur ocre ou marron. Eh bien, suivant la position qu'il occupe, l'artiste qui va le peindre mettra un petit accent lumineux sur la bordure du manteau, sur la silhouette. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va ajouter une petite touche blanche sur le côté, par exemple, de l'épaule. On comprend de cette façon-là que la lumière vient frapper le bord du manteau. Mais c'est tout. On ne cherche pas à donner l'épaisseur, l'arrondi de l'épaule. On ne cherche pas à installer la silhouette dans un espace en lui donnant du relief. Et ça, c'est vraiment Frangelico, dans le domaine pictural, qui va être un des premiers à le comprendre d'une part et d'autre part, à savoir le représenter.
Et est-ce que je peux me permettre d'ajouter que, quand on voit cette magnifique exposition, il y a aussi une lumière ou de l'intérieur de chaque figure, de chaque scène qui en émane.
Alors, on peut même aller plus avant. Bien entendu, j'évoquais à l'instant des arguments qui sont des arguments de caractère entre guillemets profane, qui relèvent du métier du peintre. Et donc, on ne peut pas dire que ces arguments-là prêchent pour une inspiration divine. Mais à l'inverse, quand on voit toutes ces compositions, quand on voit comment cette lumière, en effet, elle émane aussi des personnages, quand on voit également que Frangelico, contrairement à ses maîtres, et on peut penser à nouveau à Lorenzo Monaco, il ne va pas chercher dans la polychromie la violence des couleurs, à l'inverse, il va essayer de les harmoniser. Et donc, on pourrait presque dire que Frangelico, c'est le peintre des tons pastels. C'est le peintre de ces couleurs qui sont douces. Et effectivement, leur harmonie va nous mettre, nous qui regardons ces compositions, dans un état de presque d'extase. Hein, tellement ces accords sont délicats et subtils. Et cet effet-là, eh bien, pourquoi ne pas dire qu'il relève, comme vous le soulignez à l'instant, soit d'une conviction intérieure ou à l'inverse, d'une influence divine.
Je crois qu'il est plus que temps de faire un petit tour dans votre exposition et de suivre un peu les différentes salles pour voir certains tableaux que vous aurez peut-être la gentillesse de nous présenter à la radio pour compenser un peu radiophoniquement ceux qui n'auront pas l'occasion de visiter cette exposition.
Je voudrais vous parler en premier lieu d'un tableau très singulier qui est une thébaïde conservée au musée des Offices de Florence. Pour que nos auditeurs comprennent bien les choses, c'est un panneau qui n'est pas très haut, il fait à peu près 70 cm de hauteur, mais à l'inverse, il a un développement qui est en largeur de près de 3 mètres et plus. Donc vous voyez une espèce de grande planche sur laquelle apparaît un paysage. C'est un paysage montagneux et quand on regarde de près, on s'aperçoit que ce paysage montagneux, il est, comment dire, parsemé de quantités de petits personnages qui sont des personnages qui manifestement vivent des conditions de vie particulières. Et on pourrait, pour résumer les choses, dire que nous avons affaire à des ermites ou à des moines qui sont retirés. Au fond, comme les premiers ermites de la chrétienté le faisaient sur les hauteurs de la ville de Thèbes, et voilà la ville de Thèbes en Égypte, bien sûr, à l'époque où, dans les premiers siècles de notre ère, une communauté chrétienne habitait dans cette ville, de l'Égypte ancienne naturellement, mais ça peut paraître surprenant, il y avait une communauté très importante à l'époque. Et donc, ce sont eux qui ont inventé ce qu'on appelle en langage chrétien l'érémitisme. Les ermites donc se sont retirés dans des grottes dans la montagne. Et ce mouvement-là de retrait de la vie publique va évidemment inspirer les communautés monastiques de l'Occident. Alors, il y a une différence entre le solitaire, qui est l'ermite, et le moine qui vit en communauté avec ses frères dans un couvent. Mais malgré tout, le modèle se transmet. Et ce panneau peint, c'est en réalité un manifeste. Et donc, il est accroché sur les murs des monastères. Et il est là pour rappeler aux moines qui vivent dans ces ensembles, dans ces couvents, il est là pour leur rappeler, vous ne devez pas abandonner vos règles, les vœux que vous avez prononcés en rentrant dans ces couvents, et vous devez rester fidèles à la tradition. Pourquoi ce message ? Tout simplement parce qu'il y a, vous vous en doutez bien, des dérives. Et que souvent, les communautés qui au départ se caractérisent par des figures de sainteté sans équivoque, petit à petit, perdent de leur éclat, s'installent dans le siècle, s'enrichissent et donc oublient un peu leur mission première. Donc le tableau, il est là pour dire attention, restez fidèles à la parole donnée. Et c'est très intéressant, les historiens italiens l'ont montré, ils l'ont prouvé, ces tableaux sont spécifiques au monde monastique et on en connaît encore aujourd'hui 4 à 5 exemplaires. Alors, l'exemplaire des Offices que je citais, c'est un exemplaire complet. Les autres, nous présentons un autre panneau représentant une thébaïde qui appartient aux collections de Budapest, notamment. Et malheureusement, ce panneau est fragmentaire. Mais Michel Laclotte a pu recomposer avec 5 morceaux différents une thébaïde complète et donc qui aujourd'hui est dispersée dans 5 collections différentes. Ce qui reste important, je le répète, c'est le fait que cette iconographie, c'est une iconographie spécifique à l'univers monastique. Et qui est l'interprète de ces représentations ? On dit aujourd'hui que probablement Lorenzo Monaco a été l'inventeur du thème, certainement pour répondre à une demande, mais que les panneaux qui subsistent, les tableaux qui est notamment celui des Offices, ont été peints par Fra Angelico lui-même. Et là, c'est passionnant, puisque si vous revenez à la représentation elle-même et non plus à son iconographie, que voyez-vous ? Vous voyez une montagne, une représentation de paysage montagneux, traité à la mode médiévale. Donc, il n'y a pas de perspective. C'est un horizon montant et vous avez une disproportion entre les différents plans, les échelles des bâtiments et des personnages. Donc, c'est plutôt sur le mode symbolique que la représentation est faite que sur une tentative de montrer ce qu'est la réalité. Alors, voilà ce grand panneau exceptionnel que le musée des Offices a bien voulu nous prêter et qui est vraiment caractéristique de ses premiers pas à la fois de Frangelico dans son métier de peintre et aussi caractéristique de cet univers religieux au début du XVe siècle à Florence.
Puis il y a d'autres salles magnifiques où vous mettez particulièrement en scène la figure du Christ et les Vierges. Vous avez évoqué tout à l'heure
les vierges
en majesté et les vierges d'humilité.
Alors, on pourrait avancer dans la démonstration et pour une fois, on va oublier un instant Fra Angelico. Je voudrais vous parler d'un tableau qui appartient aux collections du musée Jacques-Marandré. Ce panneau, c'est un panneau octogonal qui représente une naissance de la Vierge. Ce panneau est peint par Scheggia, qui est le frère de Masaccio que j'évoquais tout à l'heure. Masaccio qui est l'inventeur de la peinture moderne. Et Scheggia va donc installer cette représentation de la naissance de la Vierge, donc sa mère qui est allongée dans un lit, dans un intérieur, et vous avez un cortège qui s'approche d'elle et qui lui apporte des cadeaux. Ce tableau, c'est un tableau qui est manifestement dessiné, je vais dire dessiné avant d'être peint, à l'aide de la règle et du compas. Autrement dit, les mises en perspective sont des mises en perspective modernes. Et comme nous n'avions pas réussi, je le dis très humblement, à obtenir un panneau peint de Masaccio parce qu'ils sont très peu nombreux et que c'est très difficile de convaincre nos collègues étrangers, alors nous avons décidé de montrer ce tableau qui est très proche de l'univers de Masaccio et qui montre ses méthodes de peinture moderne. Et en regard de ce tableau, nous avons plusieurs près d'elle de Fra Angelico qui montrent bien comment Fra Angelico s'est saisi de ces nouvelles méthodes pour représenter. Alors, je pense en particulier au panneau qui appartient aux collections vaticanes, l'histoire de Saint-Nicolas. Et vous voyez ici que Fra Angelico installe des architectures avec des ouvertures. Ça lui permet d'ailleurs de fractionner l'histoire en plusieurs épisodes. Vous avez d'abord la naissance du petit Nicolas, et on le reconnaît parce qu'il porte déjà l'auréole. Ensuite, vous avez sa vocation, puisqu'il écoute un prêche et que, là encore, il va être convaincu et appelé par Dieu. Et puis, le troisième épisode, c'est le miracle de Saint-Nicolas, où il ne sauve pas trois enfants du saloir, comme on le dit dans nos pays du milieu et du nord, mais comme les méridionaux le croient, Saint-Nicolas sauve trois jeunes filles de la prostitution. Comment fait-il ? Eh bien, il installe sur la fenêtre de leur maison une bourse pleine de pièces d'or. Et donc, le père qui est là, qui se morfond en disant que là, il n'a plus les moyens de faire vivre sa famille, il va être détaché de cette extrémité grâce au don de Saint-Nicolas.
Ça se trouve donc sur une prédelle.
C'est sur un tout petit panneau qui fait pas.
Toutes ces scénettes.
Qui ne fait pas 40 cm de côté. Et vous avez, grâce à une intelligence de la mise en page, grâce à l'utilisation de l'architecture, vous avez donc la possibilité de donner à chaque phase de l'histoire sa place intégrée à la continuité du récit. Et bien entendu, les questions de mise en perspective jouent tout particulièrement.
Extraordinaire, oui. Si j'ai bien compris, ça pouvait lui servir d'expérimentation, ces près d'elle, parce qu'elles étaient un peu plus...
Alors, si vous voulez...
Moins solennelles, moins...
Voilà, ils n'étaient pas tenus comme sur le panneau central, où on présentait souvent, par exemple, une Vierge à l'enfant, ou le saint patron d'une église, ou d'une chapelle. Ils n'étaient pas obligés de respecter à la lettre toutes les recommandations en matière d'iconographie. Et donc, à propos de l'histoire qui se développe sur la prédelle, dans le soubassement, il a, au contraire, là, la possibilité de l'interpréter avec beaucoup plus de liberté. Et là, on voit bien le résultat. On voit bien comment, évidemment, on n'est plus du tout confronté à une peinture en aplat. Vous voyez bien que cette peinture-là, elle est faite pour aller vers l'intérieur, aller vers la profondeur du tableau. Et là, on peut dire que la troisième dimension est inventée.
Oui. Et donc, Masaccio qui a introduit ça en premier.
Autour des années 1424-1427, et puis ensuite, c'est repris par notamment Frangelico qui le développe.
On parlait des Vierges d'humilité.
Alors, il y a, dans cette même salle, il y a toujours sur le thème de la Vierge, il y a une œuvre exceptionnelle, à nouveau provenant des collections du Musée des Offices, qui est le couronnement de la Vierge. Et vous voyez, c'est un tableau passionnant parce que ce tableau-là, quand on le regarde, je fais le commentaire avec vous pour nos auditeurs, c'est un tableau qui est sur fond d'or. Et bizarrement, il est assez tard dans la carrière, hein, 1434-35, enfin disons qu'il est au milieu de la carrière. En tout cas, lorsqu'on regarde les autres peintures réalisées à cette époque par Fra Angelico, on ne voit pas de fond d'or. Alors, on peut être amené à se dire, mais que se passe-t-il? Est-ce qu'il est dans une phase de régression esthétique? Est-ce qu'il revient à, justement, ce qui faisait le propre de la peinture médiévale, après avoir connu, justement, les expériences de la Renaissance? Est-ce que, finalement, il revient en arrière? La réponse, elle est plus complexe et peut-être en même temps plus simple. On peut imaginer que pour l'hôtel qui devait décorer donc dans l'hôpital de Florence la chapelle de cette institution, il y a une demande du commanditaire qui veut ce fond doré. Mais alors, il faut regarder comment Fra Angelico le traite. Nous avons donc, en milieu de composition, le groupe du Christ qui couronne sa mère. Et nous voyons à ses côtés, en effet, la Vierge Marie qui reçoit le diamant et la couronne des mains de son fils. C'est le couronnement de la Vierge. La Vierge est une figure sainte, de même évidemment que le Christ, et c'est la raison pour laquelle émanent de leur corps des rayonnements célestes. Et vous voyez en réalité, lorsqu'on se rapproche, que Fra Angelico, de façon très subtile, utilise le fond d'or qui va scintiller, mais il va tracer sur le fond d'or, avec des incisions, des traits qui sont, comment dire, autant de symboles pour figurer le rayon lumineux. Et lorsque nous regardons le tableau, nous voyons en effet ce scintillement, cette luminescence qui entoure la figure du Christ et de sa mère. Donc ce n'est pas du tout par hasard, ce n'est pas du tout par régression en réalité ou par faux manque de moyens que Fra Angelico réalise ce type de peinture. C'est parce qu'il est certainement à la fois dans une demande et aussi parce que de cette façon-là, il répond mieux à l'attente qui est faite, à la demande qui lui a été suggérée, que l'on puisse regarder cette œuvre, ce tableau, en se disant « mais c'est un vrai rayonnement que nous avons sous les yeux ». Et puis, il y a d'autres aspects extraordinaires qu'il faut souligner, en particulier le fait que, à première vue, on pourrait se dire, mais cette espèce de grande foule qui entoure le groupe central, on dirait qu'elle est constituée d'un nombre important de personnages qui sont juxtaposés les uns au-dessus des autres. Et vous voyez que les personnages au bas du tableau, eh bien, ils sont sous les personnages qui apparaissent au-dessus. Et donc, on pourrait dire, mais voilà, on est encore dans l'idée d'une peinture à plat. Mais si vous avez cette première impression, je vous demande de revoir à nouveau la composition, d'y revenir et de lire attentivement l'œuvre. Et que découvrez-vous ? Que l'échelle des personnages du premier plan n'est pas du tout la même que l'échelle des personnages du second et du troisième plan. Autrement dit, Fra Angelico a déjà introduit dans cette scène la mise en perspective, malgré le fait que le fond soit doré. Et là, vous voyez qu'il y a une intelligence de la composition, tout simplement, qui est magnifique.
Oui, on voit bien la profondeur, voilà. En dépit de la première impression d'aplat, on voit bien la profondeur de la perspective qui en ressort.
Voilà, si vous voulez, ces tableaux qui nous ont été prêtés nous permettent, et je dois dire que c'est aussi mon rôle en tant qu'historien de l'art, en tant que conservateur, en tant que commissaire de cette exposition, de donner des exemples qui permettent de comprendre ce qu'a voulu faire Frangelico. Et là, on voit très clairement qu'il est dans une proposition qui, à la fois, peut satisfaire le commanditaire et qui montre qu'il est dans la plénitude de ses moyens.
Et puis, sur le catalogue et sur l'affiche de l'exposition, vous avez choisi une Vierge.
Oui, cette Vierge d'humilité qui, aujourd'hui, est conservée dans les collections de la Galerie Sabauda, qui est donc la grande galerie de Turin, autrement dit, ces collections qui, autrefois, appartenaient aux Savoies. Alors, cette œuvre-là, c'est une des plus récentes. Autrement dit, elle est située et datée vers le milieu du XVe siècle, hein, autour de 1450. Et cette œuvre-là, elle se distingue des autres parce qu'elle affirme un parti pris qui est là encore un parti pris très neuf. Que voyons-nous ? Nous voyons cette même Vierge avec son enfant. Et vous remarquez, par exemple, que cet enfant est nu. Jusqu'alors, l'enfant Jésus est plutôt habillé, et là, nous avons affaire à un petit athlète. Mais regardez comment le corps de l'enfant est traité. Il est musclé, et ce qui le distingue, c'est le relief de sa musculature. Et vous voyez là que nous avons affaire à non plus une peinture en aplat, mais vraiment une peinture en profondeur, et une fois de plus, ce qui définit ce relief, c'est la lumière. Regardez aussi le clin d'œil très subtil. On évoquait les fonds d'or au début de sa carrière. Et regardez ici comment le fond d'or, il est traité avec le rideau de Seine qui, de part et d'autre, apparaît. Mais au lieu de boucher l'horizon et le fond de la composition, le rideau de Seine est ouvert. Et donc, on a juste, de part et d'autre, le rideau doré qui est là comme un rappel. Et que découvrons-nous ? Parce que c'est là où on peut apprécier l'extraordinaire science de Frangelico. Que découvrons-nous derrière ? Eh bien, regardez, vous avez une niche. Donc, nous comprenons que la Vierge et l'enfant sont installés dans une architecture qui a une forme en profondeur circulaire. Et la ligne nous l'indique, notamment celle de la corniche supérieure, mais nous avons aussi un traitement de la lumière à nouveau avec l'ombre portée sur les différents éléments d'architecture. Et alors, ce sur quoi je voudrais m'arrêter pour terminer, c'est regarder cette architecture. Nous voyons des pilastres et nous voyons des chapiteaux corinthiens. Donc, dans un cas comme dans l'autre, nous avons affaire à une architecture qui s'inspire du modèle antique. Et nous ne sommes plus clairement, plus du tout, dans le monde gothique, il n'y a plus d'arc brisé, il n'y a plus d'arc boutant. Nous sommes vraiment ici passés du côté de la Renaissance. Et c'est peut-être l'un des derniers legs que nous laisse Frangelico avec cette image complètement renouvelée de la Vierge d'Humilité, formulée, imagée, suivant des principes qui sont ceux que les artistes vont suivre désormais jusqu'au début de l'art moderne, ce que nous appelons l'art moderne dans les années 1900 à Paris.
Donc, en quelque sorte, c'est son apport le plus essentiel, la quintessence de son art.
Complètement, complètement. Et là encore, si vous voulez, je remercie.
Cette recherche de la perspective,
voilà.
À partir de
là, pas seulement la perspective, de la profondeur.
De la profondeur, dans tous les sens du terme.
Voilà. Et si vous voulez, je suis vraiment, il faut le dire, très reconnaissant à nos amis italiens d'avoir accepté de se dessaisir quelques mois de ce chef-d'œuvre. D'autant qu'il faut bien le reconnaître, ce n'est pas un tableau qui est si connu que cela. Et lorsque nos visiteurs ont le plaisir de pouvoir le découvrir, je crois qu'ils en ont vraiment, ils en apprécient toute la richesse, toute la qualité. Et qu'en le voyant au premier coup d'œil, ils comprennent effectivement à quel point il y a une évolution si importante entre le Frangelico du début, j'évoquais la Thébaïde, jusqu'à celui-là qui est un Frangelico complètement moderne.
Donc cette fois-ci, encore pour un certain temps, on peut venir aussi à Paris pour voir Frangelico.
Voilà.
On n'a pas besoin d'aller à Florence.
Voilà. Encore que, bien entendu, le voyage à Florence s'impose. Hein. Vous imaginez bien, je ne peux pas vous le décommander. Mais nous avons évidemment cette chance inouïe de pouvoir présenter ce rassemblement d'œuvres, autant les peintures du maître lui-même que de ceux qui l'ont entouré ou suivi, et qui font, je crois, de cet ensemble ici rassemblé quelque chose de, que je suis bien obligé de qualifier d'exceptionnel, puisque d'autres l'ont dit avant moi.
Justement, on vous remercie beaucoup de nous avoir offert et cette exposition et d'être venu une fois à nouveau pour nous présenter ce grand maître à notre antenne pour tous nos auditeurs dans le monde. Merci beaucoup, Nicolas Saint-Pierre.
Merci à vous.